Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Pascal Wick. Bonjour.
Bonjour. Oui.
Pascal Wick, vous êtes avec nous pour nous présenter un ouvrage que vous venez de rédiger aux éditions Book Editions. Et donc, ça s'intitule « Retour Israël-Palestine 2024 ». Alors, peut-être avec ce sujet d'actualité qui emmène le monde autour de ça, est-ce que vous avez... Quel est pour vous ce désir d'avoir écrit ce livre ?
Moi, j'écris. Et ça fait 15 ans que je vais dans la partie, voilà, en Palestine. La partie, moi, je ne suis jamais allé à Gaza, c'est dans la Palestine. Moi, je vais en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et ça fait 15 ans que j'y vais maintenant. Et j'écris là-dessus. J'ai un manuscrit qui fait, je ne sais pas, 400 pages ou un truc comme ça. Et j'ai extrait le dernier voyage que j'ai fait, parce qu'il a une certaine importance dans la mesure où j'y suis allé en hiver 2024, c'est quelques mois après ce qu'on appelle le 7 octobre. Donc il y a eu beaucoup de changements, et je veux dire, c'était très rare de voir des gens qui allaient on va en Israël, c'est le seul aéroport qui est. Donc j'ai écrit ce livre pour... Voilà, c'est comme le manuscrit. Moi, je connais des gens, ça fait 15 ans que je les connais. Il y a des jeunes que j'ai connus, ils avaient 5 ans, maintenant ils ont 15 ans. Il y en a qui avaient 10 ans, maintenant ils ont 25 ans. Je les ai fréquentés tout au long de ces années. Donc on se connaît un peu quand même. Voilà. Pour dire, les gens me disent, mais moi je ne parle pas arabe. Mais voilà, les gens là-bas, ils parlent, c'est rare qu'ils ne parlent pas anglais. Les petites filles dans la rue au village, moi je vais toujours dans le même village, après je circule de là, mais les petites filles qui ont 6-7 ans, do you speak English? il faut bien se dire que les Palestiniens, c'est une population très intello. Moi j'ai connu les premiers Palestiniens que j'ai connus, c'est en Algérie, en 1965, c'était deux femmes qui étaient profs d'université à Alger. Ils ont toujours exporté leur matière grise. Et ils continuent à l'exporter. Et à travers ce qu'on relate les médias, les informations, etc., en France et en Occident, les gens ne peuvent pas s'imaginer de ça. Vous parlez avec quelqu'un, il y a pas mal de probabilités qu'au bout d'un moment, vous allez apprendre qu'il a un doctorat, je ne sais pas quoi, etc., etc. Voilà, la Palestine, c'est ça. Ils tiennent beaucoup à l'éducation, et depuis longtemps.
Par rapport à cette Palestine et ses habitants, vous parlez de que c'est une population intellectuelle. Ouais. Qu'est-ce qui les tient entre eux dans cette identité de Palestinien ?
Qu'est-ce qui vous tient, vous, en tant que Français ? Qu'est-ce qui vous tient ? Je veux dire, c'est... La première chose que je dirais qui saute aux yeux, c'est que ce sont des individus qui font partie d'une population qui, depuis plus de 100 ans, a des forces incroyables contre elle. D'abord les Anglais, etc., etc. Bon, les Français, les Américains, tout le monde s'est mis là-dedans. Et eux, ça fait plus de 100 ans qu'ils résistent. Et ils sont toujours là.
Je reviens un peu sur le terme palestinien. C'est faire un peu d'histoire. Palestinien, quelle est l'origine de ce peuple ? Est-ce qu'il est au-delà même de cette période que vous indiquez, depuis un siècle ? Est-ce que c'est une émanation aussi de civilisations plus anciennes ?
Oh ben oui, je veux dire, on parle de la Palestine du temps des Romains. La conquête de la Palestine, elle s'est faite par un Romain. Nous, ici, là, en France, la culture, elle est beaucoup basée sur les récits religieux, le Nouveau Testament, etc. Et tout ça, voilà, ça parle de Palestiniens, hein, en gros.
C'est avant tout leur terre qui prévaut dans ce qui tient le peuple palestinien. Souvent, on entend des commentaires de Palestiniens qui disent « j'ai vécu toute ma vie ici, j'y resterai ». C'est une identité pour eux, cette terre, ce sol, même s'il est aride.
Oh, il n'est pas, je veux dire, moi j'ai travaillé toute ma vie dans l'agriculture, j'ai travaillé sur 3 continents dans l'agriculture, dans bien des pays, etc. Il y a des rendements à l'hectare au niveau finalement monétaire, hein, parce que c'est ça qui compte, les endroits ne sont pas mauvais, forcément il y a des pâturages, etc., c'est extensif, il y a ça en France, ici on connaît ça, moi j'ai été berger pendant longtemps, on connaît ce type de terrain. Mais non, ce n'est pas une terre spécialement pauvre, hein, pas du tout, hein. Ça, je peux l'apprécier bien, parce que, comme je vous dis, j'ai travaillé toute ma vie dans l'agriculture. J'ai travaillé aussi bien que berger, comme conseiller ministériel. Donc voilà, j'ai fait tout. L'agriculture, je connais.
Cette agriculture, il y a certainement les céréales, les oliviers. Quel type de culture aussi ont prospéré sur ces terres?
Toutes les cultures méditerranéennes. Hein, les légumes, entre autres, mais forcément... Des céréales, hein, pour les terres moyennement riches, où il n'y a pas d'irrigation, peut-être, ou des choses comme ça. Les oliviers, bien sûr, les amandiers, les arbres fruitiers, les légumes.
Ce titre, « Retour Israël-Palestine 2024 », quel sens lui donnez-vous à ce mot « retour » ?
C'est un peu ce que je disais au début. Moi, j'y suis allé la première fois en 2010, et après, j'y suis allé régulièrement plus de fois que je peux m'en rappeler, quoi. Et après le 6 octobre, j'ai senti qu'il y avait des choses qui se passaient, qui se passaient déjà avant, mais pas au même niveau. Moi, quand je suis là-bas, je passe à peu près un quart de mon temps. J'ai passé au total plus d'une année là-bas, à toutes les saisons de l'année, etc. Donc, voilà. Et j'ai senti que ça, c'était un retour, parce que ça faisait un moment que j'y allais. Mais là, il allait y avoir des différences notables. Et j'ai trouvé ces différences notables.
Et c'est ce que vous rédigez donc dans ce livre, cette différence que constatée.
Oui, moi j'écris vraiment. Je suis dans ce village, je vais avec quelqu'un le matin, il me dit tiens, je vais aller faire réparer la voiture, je vais avec lui. Parce que je me dis, toutes les situations sont intéressantes. D'abord, là, je peux décrire quel type d'atelier c'est, etc., le comparer et tout, quel type de voiture. Enfin, je ne vais pas faire ça tous les jours. Je veux dire, voilà, faire que les gens vivent au quotidien de ce que les Palestiniens vivent. C'est ça que je veux vous transmettre. Je ne vais pas faire l'historique de la Palestine, etc. Non, on va le retrouver dans le texte, bien sûr. On va retrouver des comebacks, des flashbacks, etc. Mais le gros, c'est ça. Je suis là, je me pose une question. Pourquoi lui, il est plus riche que lui, là, à Ramallah, il a un appart avec... ascenseur, etc. Et moi, l'homme que j'habite dans le village, il a une Fiat année 1985 dans laquelle on traverse... Lui, il a une voiture semi-électrique, là, je ne sais plus comment ça marche, là, etc. Pourquoi ? D'où vient cette différence ? Ils sont de la même famille et tout. Je me pose la question. Et j'y réponds. Donc, on comprend comment ça fonctionne.
D'ailleurs, mondialement, on a vécu aussi cette mondialisation, hein, de commerce, de culture aussi, d'échanges culturels. Au niveau de la Palestine, qu'est-ce qui a abouti sur cette notion de mondialisation ? Ou alors est-ce qu'il y a le temps qui s'est suspendu sur ces terres et...
Non. Le village où je vais, là, depuis 15 ans, mais j'en connais d'autres, je veux dire, mais c'est là où je dors, etc. Et c'est là où tout le monde me connaît, moi je ne connais pas tout le monde. Non. Mais c'est pour dire que c'est 4000 habitants. À 10, c'est 4000 habitants, à quelque chose près. Donc, mais la mondialisation, comme je vous ai dit, moi, les premiers Palestiniens, c'était 2 Palestiniennes que j'ai connues, c'était en Algérie. C'était dans les années 65, donc. Et comme je vous ai dit, la Palestine exporte sa matière grise depuis. Et quand vous allez dans... Ils exportent où ? Principalement dans les pays arabes. Forcément, ce sont des Arabes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, c'est tous des Arabes. Oui, c'est... Voilà. Donc, ils vont... Et depuis longtemps, depuis que le pétrole a pris son expansion à partir de l'Arabie saoudite et dans les pays du Golfe, il y a des Palestiniens là-bas. Bien sûr, des ingénieurs, depuis des ingénieurs jusqu'à des secrétaires, etc., etc. Beaucoup de l'argent qui arrive aujourd'hui dans ce qu'est la Palestine, c'est ce qu'on appelle l'argent du Golfe. Moi, j'ai un ami, le dernier voyage que j'ai fait, où là, il y avait des gens qui, par rapport à avant, qui ne mangeaient pas à leur faim des Ristiens. Tandis qu'avant, ce n'était pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une grosse partie de la population qui allait travailler en Israël quotidiennement, qui se levait à 4 heures du matin, qui passait un checkpoint. Je veux dire, c'est impressionnant. Ça n'a rien à voir avec ce que les checkpoints que passent les Israéliens, bien sûr, et les internationaux. Moi, j'y suis passé là-bas. Et ça, du jour au lendemain, ça a été terminé, ça. Donc, il y a toute une partie du revenu de Deristia qui a été asséchée complet. Du jour au lendemain. Ensuite, la deuxième chose, Deristia, c'est une population villageoise dans le sens où on l'entend en géographie, c'est-à-dire qu'il y a une base agricole quand même. Elle n'a pas complètement disparu. Adi, il n'y a pas de base agricole. Il n'y a pas d'exploitant agricole. Adi, non. C'est plus un village. Là-bas, c'est encore ça. Il y a des bêtes, etc. Moi, j'ai connu ça en Haute-Savoie. C'était encore là où je suis né, mais maintenant ça ne l'est plus depuis longtemps. C'était un village, il y avait des vaches dans le village. Et une partie de leur revenu, tout le monde a des oliviers à quelque chose près. Les oliviers, c'est le symbole de la Palestine. C'est comme les buffalo, les bisons pour les Amérindiens, c'est la même chose. On vous tue les bisons, là, une grande partie, pas tous, hein, parce qu'il y a c'est les Indiens transhumants, etc., qui vivaient avec la chasse beaucoup, des buffalo. Et là-bas, c'est pareil. Mais on le voit tous les jours, ça. Hein. Il y a des colons et d'autres Israéliens juifs qui détruisent des oliveraies tous les jours en ce moment. Mais ça, ils l'ont. Et à cause de la peur, il y a beaucoup de parcelles d'oliviers où ils n'osent pas aller. Deuxième source de revenus qui a été coupée. Hein. Voilà. Donc l'internalisation, ils l'ont vécu. Ils ont eu des membres de leur communauté, la diaspora palestinienne. Il y en a de partout. Hein. Et ça, ça fait partie de la mondialisation, ça. C'est des gens qui le vivent au quotidien, qui savent ce que c'est. Et puis l'autre chose, c'est l'oppression qui leur vient d'une agression qui n'est pas locale. Hein. Elle est internationale, cette agression. Donc là aussi, ils la vivent, l'internationalisation.
Avant ces conflits, comment peut-on décrire ce village de 4000 habitants ? Qu'est-ce qu'on y trouve au niveau du commerce, des services
Comme je disais, il y a 4000 habitants, mais le revenu de la commune, si on prend le revenu brut au travers de tous les habitants, etc., il est peut-être, je ne sais pas moi, un vingtième du revenu brut de Deristia. Donc ce qu'on y trouve, oui, on y trouve encore des commerces qui ne sont pas grands, qui sont peut-être deux fois cette salle, et il y aura de tout dedans, pendu ci, à l'étagère par là, etc. Pendant les 15 ans où j'y suis allé, ça a évolué, ça. Maintenant, il y a un peu des petits supermarchés. Il y en a, la première fois que j'en ai vu un, c'est en 2024. J'avais jamais vu encore un petit supermarché à Deristia. Voilà, comme avec des rangées de trucs à peu près droites, etc., une ou deux caisses. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve ce qu'on ne trouve pas ici, mettons, à part les chiens de compagnie, il y en a partout, là. Mais on y trouve des troupeaux. On y trouve des troupeaux de moutons, des troupeaux de chèvres. On y trouve des bêtes de travail, des bêtes de somme. On y trouve de la volaille. On y trouve des gens qui habitent souvent les mêmes maisons. Ou pas, mais qui ont... Ça marche par... Les familles vivent par quartier. Ça, c'est le quartier des AR. Ça, c'est le... voilà. Ils ont même jusqu'à... Un de leurs trucs, c'est de construire même une mosquée dans ce quartier. Etc. Donc, il y a plus de bâtiments religieux à Deristia qu'il y en a à Die. Malgré que Die, c'était un évêché, le deuxième de l'histoire de la France, de ce qu'est la France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des gens qui travaillent à l'extérieur. Comme je vous ai dit, ça a été bloqué complet. Il y a des gens qui travaillent dans des colonies, des colons juifs israéliens. Il y en a aussi qui travaillent dans ces colonies, notamment une bourkine. Tous les matins, je vois bien, il y a un petit car là, qui vient les prendre. Ils sont 8 ou 9. Ils travaille à Bourkine. C'est mieux, déjà mieux payé que de travailler. Voilà, c'est une question de revenus, beaucoup. Hein. Les gens ont du mal. Et ils sont exploités beaucoup, beaucoup. Quoi.
Je me référais par rapport à la ville d'Udi, puisque vous l'avez abordé aussi. Il existe un centre-ville, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une équivalence dans un village palestinien avec un commerce de journaux, de cafés, un lieu où les populations se croisent, s'échangent?
C'est beaucoup plus diverse, je dirais. Moi, le soir, quand les gens ont fini de travailler, avant, je travaillais toujours avec une famille ou l'autre pendant la journée. Donc, quand c'était fini la journée, on se retrouvait ou bien chez un commerçant, et il y avait un canoun dehors dans la rue, il y a le feu, ils mettent un truc pour chauffer de l'eau, boire ce que vous avez, du thé ou du café, ou moi, je bois une tisane de marami, hein, c'est une sauge, et ils le savent, on mange des petits légumes secs cuits, là, dans une boîte de conserve, et on discute, on est tous dans ces chaises-là, typiques plastiques, dehors, machin. Voilà, il y a des jeux de cartes aussi. Et un des endroits où les gens se rencontrent beaucoup, c'est au moment de la prière dans la mosquée. Il y a un attroupement dehors, les gens, voilà, ils échangent, et quand ils sortent, comme de l'église en France, un peu, les gens restent un peu dehors, etc. Il y a des échanges. La vie religieuse existentielle est beaucoup plus présente qu'ici, quoi. Hein. Parce qu'ici, il y a la cloche. Moi, je l'entends, la cloche de la cathédrale, là. Mais le muezzin, il y en a plus que... Je veux dire, on l'entend bien, quoi.
Je crois que c'est 5 fois par jour, hein, il me semble.
Oui, oui.
Voilà.
Mais il y a d'autres choses aussi. Moi, je me rappelle, là, c'est dans le petit bouquin, là. Un jour, un matin, tout d'un coup, l'homme avec qui je suis, là où j'habite, il me fait chute, il veut écouter ce que dit le muezzin. C'est un truc qui n'était pas là, voilà, c'est pas dans la routine. Et il était en train d'annoncer qu'il y avait un tel de Deristia qui avait été tué dans un autre village, au moment, et qu'il y aurait une veillée, etc. etc.
Voilà. Le muezzin est en quelque sorte un organe d'information pour la population.
Un peu, il a ce rôle aussi, oui.
Est-ce qu'il existe un marché de temps en temps aussi?
À Deristia même, il n'y a pas de marché. Il y a des commerçants, oui. Les villages, dans la partie de la Cisjordanie, beaucoup des villages sont construits sur la crête. C'est assez montagneux. Hein. Ils sont construits sur les crêtes. Donc le centre du village, en fait, il est au plus haut, là-haut, sur la crête, où il y a la première mosquée, bien sûr. Et puis il y a une place, etc., où les gens... Mais pas... il y a beaucoup d'autres endroits où les gens aussi restent ensemble le soir.
Comment avez-vous procédé à l'écriture de votre livre? Est-ce que vous avez pris parti pour avoir un regard en vous référant sur des personnes ou sur votre propre constat?
C'est pas mal dans le cadre d'un journal, en fait. Et c'est beaucoup des choses observées ou des conversations entendues. Puis après, il y a des réflexions de moi par rapport à ça, des questions que je me pose et comment j'y réponds, qu'est-ce que j'ai trouvé comme réponse, et puis même incidemment, quoi, hein, sur la musique, sur la prière, sur les oliviers. Moi, j'ai vécu dans beaucoup de pays, j'ai travaillé dans des oliviers en France, en Espagne, en Algérie, donc en Tunisie, là-bas, à l'extrême ouest de l'Asie, là, et j'ai vu des oliviers en Grèce et j'ai vu des oliviers en Italie. Donc je connais bien aussi l'olivier. Donc voilà, c'est des échanges aussi, ça. Comment on les taille, comment on les greffe. Moi, j'ai participé à des tailles régulièrement d'oliviers, quoi.
Alors, vous parlez donc de ce qui a nourri l'écriture de votre livre. Est-ce que vous avez aussi suivi des personnes et d'échanger, peut-être dans cet aspect d'un journal, relater un peu ces rencontres avec ces populations, ou des personnes, des amis, voire?
Ah oui, les amitiés, c'est pour ça que j'y retourne, et c'est pour ça que j'y vais là à la fin du mois.
Est-ce que vous avez constaté cette évolution de ce qu'eux éprouvent depuis 14 ans maintenant, puisque entre 2010 et 2024, vous avez certainement constaté une grosse différence, et après on reviendra sur une autre notion.
Ce que je dis dans le petit ouvrage là, oui, moi j'ai des rapports étroits. J'ai vécu plusieurs fois dans des communautés paysannes. J'ai été moi-même exploitant agricole, etc. Petite hein, exploitation de montagne. Donc c'est des milieux que je suis né dans une en haute montagne, en Haute-Savoie, avec à l'école communale où j'allais, c'était que des enfants des fermes qui étaient autour là en montagne. Donc ces gens, je les connais à force. Vous voyez, les rapports que vous avez avec quelqu'un étroit sur 15 ans, ça fait que vous avez une... Donc on a échangé. Donc ces échanges, je crois qu'il a échangé avec moi sur certaines choses qu'il n'avait peut-être jamais échangé avec qui que ce soit d'autre. Donc ça, voilà.
Et donc, justement, ce sont ces relations que vous rédigez dans ce livre qui expriment un peu cette évolution qui s'est opérée sur 15 ans.
Le plus évident pour moi pour voir l'évolution, c'est, mettons, des personnages qui avaient une dizaine d'années quand je suis arrivé, et maintenant qu'ils en ont 25, ou qui avaient 15 ans et qui en ont 30. Là, on voit vraiment une évolution, quoi. Donc, la famille avec laquelle je suis plus proche, à l'époque, c'était encore un couple. Naïma, c'est le nom de la femme. Et Zoher, c'est le nom de l'homme. Zoher, il a peut-être 20 ans, 15 ans de moins que moi, ou quelque chose comme ça. Sa femme, elle a été tuée entre-temps. Elle est née dans un petit village que je connais bien, parce que je suis allé souvent avec elle et Zoher, et puis j'y suis allé depuis même qu'elle est décédée. Son père, c'était un petit agriculteur qui savait ni lire ni écrire, mais qui aimait se connaître. Bon, il connaissait la poésie, etc., comme beaucoup d'Arabes musulmans, qui savent ni lire ni écrire, mais ils connaissent beaucoup de choses de la littérature. Et lui, il avait... Voilà, ils sont sept dans cette famille, et tous les enfants, qu'ils soient masculins ou féminins, ils ont fait des études universitaires. C'est pour vous dire hein, d'où il vient cet homme et qu'est-ce qu'il a fait de ses enfants. Les femmes comme les hommes. Naïma, elle a fait ses études à Bagdad. Et il y a une législation israélienne qui fait que pour partir et pouvoir revenir, vous ne pouvez pas avoir un visa en tant qu'étudiant, parce qu'elle est partie avec une bourse pour aller travailler, pour aller étudier à l'université de Bagdad. Et cette autorisation est que sur 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, elle a décidé de faire comme c'est dit et de retourner en Palestine occupée. Hein. Et ce qui est arrivé devait arriver parce qu'à Bagdad, elle a manifesté contre l'occupation, etc. Donc, elle était repérée par les services de renseignement israéliens. Et quand elle est revenue, quand elle a demandé pour son retour... Elle ne l'a pas obtenu. Donc, ses études ont été coupées à cause de ça. Okay, ça, c'est un exemple. Zoher, lui, par contre, il n'a pas fait d'études. C'est rare. Il a passé son bac, finalement. Mais il a été fait prisonnier quand il avait 17 ans. Et là, il est resté 3 ans en prison. Ensuite, il a passé son bac en prison, l'équivalent de son bac. Donc, au bout de 3 ans, quand il a été libéré, il s'est inscrit à la fac pour faire des études en économie. Et il y avait quelques... Voilà, quand il est parti, l'année était déjà en cours, ou enfin, peu importe, mais il n'est pas rentré tout de suite à l'université. Et le temps, en attendant, il s'est fracturé le bras de façon... Ouais, avec fracture ouverte. Pas du tout au niveau du conflit. Hein. Et là, donc, il n'a pas pu faire la rentrée, comme il prévoyait. Et donc là, il y a un oncle au Koweït, justement, qui lui a dit « Je peux te trouver du boulot au Koweït », puisqu'il n'a pas arrêté à l'université. Ça a mis du temps à se guérir, ce truc-là, etc. Bon. Et là, son oncle lui dit, il faut que tu ailles en Jordanie, parce que c'est de là où je pourrais t'envoyer les papiers, patati patata. Donc il s'est démerdé pour aller en Jordanie. Et là, il est allé dans un camp où il y a un cousin qui a été donc victime de la... Entre autres, comme tous les Palestiniens de Nakba, il s'est retrouvé, lui, dans un camp en Jordanie. Donc il est allé habiter là. Et puis le permis de travail, etc., et au bout de 3-4 mois, il n'était toujours pas là. Donc il a décidé de rentrer à Deristia. Il est rentré à Deristia. Et très vite, il avait eu des activités militantes, la première fois, quand il avait 17 ans. Hein. C'est pour ça qu'il avait été en prison. Militante, je veux dire, ici, tout le monde sera en prison. Hein. Qui n'est pas militant à un moment ou l'autre, que ce soit dans les associations ou je ne sais pas quoi. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Hein. C'est une autre planète, là-bas. Donc, il est revenu et au bout d'un moment, il a repris des activités militantes au point où il a été dans la clandestinité avec un autre groupe. Et là, il a été dans la clandestinité pendant 3-4 ans, jusqu'au moment où les Israéliens, l'armée d'occupation israélienne, a prévenu son père qu'il le suivait exactement, qu'il savait chaque fois où il est maintenant, et que s'il ne va pas se rendre lui-même, ils vont le descendre. Donc il s'est rendu, et là il a encore fait 7 ans de prison. Et après, quand il est sorti, il n'a pas fait d'études, c'était terminé, quoi. C'était trop tard. Déjà pour se marier, ce n'était pas évident. Il s'est marié donc avec Naïma. Et par contre, il a eu, comme dans toutes les prisons israéliennes où il y a des Palestiniens, enfin maintenant c'est même plus ça parce que les conditions de détention sont affreuses. C'est des crimes contre l'humanité, les détentions en ce moment des Palestiniens en prison, dans les prisons israéliennes. À l'époque, il y avait encore la possibilité, c'était déjà terrible par rapport à ce que nous on peut connaître en Europe, mais il y avait encore cette possibilité pour les prisonniers de s'instruire, et notamment de s'instruire politiquement.
Je reviens un peu sur cette motivation de Palestiniens qui suivent des études universitaires. Quel idéal, selon eux, les pousse justement à se former? Est-ce qu'il y a cette perspective de cette Palestine reconnue et donc de la construire? Est-ce que ça, ce rêve, est toujours présent encore aujourd'hui, ou plus que jamais même?
Je vais vous parler de la fille de Zoher et Naïma. On va rester dans la même famille. Okay, cette fille, Lena, j'ai dû la connaître en 2010. Elle doit avoir plus que 10 ans, peut-être 12 ans. Peut-être qu'elle avait 12 ans. Voilà. C'est une très bonne élève. Et il y avait des drames parce qu'il y en avait une autre qui, quelquefois, était la première. Donc, c'était vraiment... Quand j'y suis retourné, bon après je l'ai vu régulièrement, patati patata, et quand j'y suis retourné en 2024, elle était docteur généraliste, elle avait fini ses études de médecine, et elle faisait son cycle d'internat à l'hôpital de Salfit. Et j'ai beaucoup parlé avec elle, parce que il y a une grande différence entre faire des études pour devenir médecin, et ensuite même faire des spécialités, et faire ça en Palestine ou faire ça en France. Une jeune femme qui fait des études de médecine en France, si elle a un minimum de IQ, là, ou QI, je ne sais plus comment dire, etc., bon, et si elle s'y met, elle peut faire ça. Et ce n'est pas, un engagement social, pas du tout. C'est plutôt un engagement, si, social au niveau d'avoir un standing dans la société, peut-être mieux que ses parents, ou des trucs comme ça. Là-bas, c'est un engagement politique complètement. Combien de médecins ont été tués dernièrement? Et ça se passe la même chose en Cisjordanie. C'est un engagement et c'est des gens, je veux dire, il faut être fort hein, pour choisir médecine. Et il y en a beaucoup qui choisissent médecine. Ça, c'est pour soigner la Palestine qui est gravement atteinte.
Justement, on parle de ces agressions, notamment celles des colons qui spolient des terres de Palestiniens, des terres familiales, ancestrales même. Quel est ce regard? Est-ce que vous avez eu aussi des propos relatés par les personnes que vous avez rencontrées?
Oui, bien sûr. On ne peut pas éviter. Si on habite dans un village comme Derestia, il y a 8 colonies autour. Sur le plus haut des collines, là-haut, là, on ne peut pas éviter d'être confronté quotidiennement avec quelque chose qui émane de ces colonies. Que ce soit le bruit, que ce soit les paroles, que ce soit la musique, parce qu'on entend la musique, que ce soit la vue, on les voit passer, etc. Que ce soit le fait d'être arrêté, de devoir donner ses papiers, etc., dans des conditions qui ne sont pas respectables, etc. On ne peut pas éviter.
Est-ce qu'il y a la présence de l'armée aussi qui temporise
bien sûr,
ces zones?
Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de différence entre l'armée et les colons. Les colons, ils ont fait l'armée aussi. Et l'armée, elle est tenue par les colons, etc. etc. C'est du kiff au même. Hein.
Et vous, Pierre, votre sentiment sur la situation actuelle, et notamment avec ce retour en 2024, quel espoir avez-vous encore sur cet avenir de la Palestine?
Moi, je reviens en 2010, la première fois où j'y suis allé, c'est à travers un groupe de bouddhistes qui font ce qu'on appelle des retraites socialement actives. J'ai jamais entendu parler de ça en France, mais dans le monde anglo-saxon, ça se fait depuis un moment, quoi. Et donc, ce groupe-là qui fait des retraites dans différents pays du monde, là où il y a des problèmes, où on peut intervenir et de façon positive, c'était pendant 15 jours d'aller dans des villages où les Palestiniens ont des difficultés à récolter leurs olives, pour une raison ou une autre, parce qu'il y a beaucoup de... Il peut y avoir beaucoup de raisons qui font que... Ça peut être l'armée, ça peut être les colons, ça peut être l'administration, ça peut être le ministère de l'Environnement, etc., etc. Et cette fois-ci, j'y vais de la même façon. Là, moi, je vais partir à la fin du mois de septembre. Je vais partir pour 6 semaines. Et j'ai retrouvé ce groupe. Je leur ai dit, mais moi, à 84 ans, je ne peux plus ramasser les olives, je veux dire, etc., etc. Il m'a dit, non, mais tu ne viens pas pour ça, on t'invite. Je dis, c'est trop cher. Moi, je vis au-dessous du seuil de pauvreté. C'est important pour moi de le dire. Et je ne me plains pas du tout de ça. Mais bon, aller en Israël-Palestine, de dit, faire tout. Je suis même obligé de coucher à Orly parce que l'avion il part à 7 heures, donc il faut que j'y sois à 5 heures du matin, etc. Donc à mon âge, je ne vais pas aller. Donc je prends une chambre d'hôtel à Orly, etc. Ça coûte des thunes. Mais bon, normalement, je voyage à râle et pas crête, quoi. Mais bon, à 84 ans, voilà. Ouais, ce que j'ai vu, c'est les gens qui ont déjà été virés d'une partie, qui sont retrouvés dans un camp. Il y en a, ça fait plus de 50 ans, etc. Ils savent que s'ils bougent, de toute façon, de là où ils sont, ils n'arriveront plus à retourner. Hein. Et ça fait que les gens, ils ont envie de tenir, quoi. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de retour. Si tu bouges, il n'y a pas de retour. Hein. Il y a des gens qui restent à l'heure actuelle dans le Gaza Nord. Gaza Nord, c'est l'enfer le plus... De Gaza, c'est l'enfer le plus. Hein. On n'a pas le droit... Ils n'ont pas le droit d'être là. Donc, c'est comme... C'est tir libre. Il n'y a rien qui rentre. Contrairement à ces 4 endroits de distribution des pièges à rats. Voilà. Mais ils ne bougent pas, ces gens-là. C'est un autre monde. Et ces gens, ils ont vécu autre chose que nous avons vécu. Ils ont vécu ce que d'autres ont vécu, bien sûr. Les Juifs ont vécu entre 39 et 45, ils ont vécu, etc. Voilà, il y a d'autres populations. Les Noirs d'Afrique ont vécu des choses et ils le vivent encore. Mais je veux dire, ils n'ont pas la même mentalité que nous, c'est sûr. Parce qu'ils savent que s'ils sont comme nous, ils sont morts dans 3 jours. Ouais, une dernière chose que je voudrais dire, que j'essaye toujours de communiquer, à mon avis, c'est la base, quoi. Pourquoi j'y retourne? Les gens me disent, mais c'est pas le moment. D'abord, c'est toujours le moment, parce que c'est rare que je passe une journée là-bas sans que quelqu'un me dise... Je parle aussi bien du contact que j'ai avec des Israéliens juifs, ils ne sont pas nombreux, mais c'est des contacts très forts, que les contacts que j'ai avec quand je suis en Palestine. C'est rare qu'il n'y ait pas une journée où quelqu'un ne me dise pas quelqu'une me dise pas merci d'être là. Et ça, c'est important. Ça, c'est une chose. Et pourquoi j'y retourne ? Principalement parce que moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence. Hein. C'est une phrase de Bernard Lazare. C'est le premier homme qui a agi pour Alfred Dreyfus, hein, bien avant tout le monde. Et cette phrase, c'est « Si je vois quelqu'un opprimé et que je ne fais rien, que vaut ma vie ?» Et moi, c'est ma façon de faire un peu, quoi. L'oppression, on peut pas se la cacher. Si tu passes dans une rue et qu'il y a quelqu'un qui est oppressé par un autre, tu l'as vu et tu sais, et ça se voit, ça peut pas être contestable. Qui donne l'ordre à l'autre, c'est pas contestable. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux l'oublier, tu peux agir en fonction de ça, ou alors tu peux aller même à vanter l'oppresseur. C'est possible, il y en a qui le font. Mais voilà, si tu fais rien quand tu vois quelqu'un opprimé, il faut se poser la question, qu'est-ce que vaut ta vie ?
Quelle place occupe la Hamas dans le quotidien des Palestiniens ? Est-ce qu'il y a un réel apport de ce mouvement pour la population ?
Il y a eu des élections générales en Palestine, qui comprend la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, en 2006. Les élections ont été suivies par des autorités internationales, dont la Fondation Carter, hein, que moi j'apprécie beaucoup, et ils ont déclaré que c'était des élections libres. Okay ? Le Hamas a été élu partout, pas qu'à Gaza. Hein. Le monde occidental a dit « c'est des terroristes, c'est pas possible ». Ils ont poussé l'autorité palestinienne, ça a créé des conflits où il y a eu des morts. Hein. Ça, c'est qui a fait ça, hein. C'est pas le Hamas qui a fait ça. Eux, ils ont gagné les élections. Ça voulait dire que les Palestiniens, ils étaient derrière eux. C'était une élection qui a été faite dans des conditions respectables et c'était un vote qui devait être estimé. Ça n'a pas été fait. Les conséquences, il faut les payer maintenant. Et c'est beaucoup les Palestiniens qui les payent, les conséquences. Mais ils ne vont pas lâcher. Hein.
Et justement, cette attaque du 7 octobre par le Hamas ou des membres du Hamas, comment a-t-il été perçu par la population dès les jours suivants ? Je ne sais pas si vous échangez à ce moment-là depuis ici vers ces territoires. Et quel regard porte-t-il aussi sur... moi, j'estime qu'il y a eu une impréparation totale de cet acte et les conséquences que ça a amené par la suite. Est-ce qu'il y a un doute au sein de la population ? Quel était le sentiment des personnes que vous avez croisées en 2024 sur cette situation, hein ?
Ouais, ça, je pense. Moi, je ne suis pas un analyste politique. J'ai pas fait.
Non, mais je parle juste de personnes qui vivent sur ce territoire. Est-ce qu'elles ont subi par la suite ?
J'entends toujours les gens dire de toute façon, en Cisjordanie, c'est pas le Hamas. À Jérusalem, c'est pas le Hamas. Donc voilà, il y a une réponse comme ça.
C'est aussi simple.
Je veux dire, c'est une réponse.
Oui.
Mais moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Hein.
Et puis, c'est non, pas, moi, je ne parle pas de réponse. Je parlais
c'est
pas, de.
C'est
si
même
vous
pas
aviez...
à moi de répondre, c'est aux Palestiniens de répondre et ils répondent.
Oui, mais ouais. Justement, dans ce livre, est-ce qu'il y a ce constat, hein, de cette réflexion des personnes que vous avez croisées sur l'actualité qui les touche quand même ? Est-ce que ça, c'est relaté dans votre livre ?
Ah oui, bien sûr.
Oui,
moi, j'ai,
c'est ce que
j'ai
je voulais
passé
vous...
4 jours à Tel Aviv avec des Israéliens juifs. 4 jours quand même, au même endroit, etc. Et j'en ai eu des. Pas mal, hein, on a parlé tout le temps, on méditait ensemble, on échangeait ensemble, etc. Des gens chaque fois que je connaissais pas, mais une quinzaine le matin, une vingtaine l'après-midi, et ça pendant 4 jours. C'était complètement différent une fois que je suis arrivé en Palestine. Quand j'étais... Ça se retrouvait qu'il y avait eu le 7 octobre dans... Vous savez, souvent après une séance dans tous les trucs de tradition méditative... Il y a une séance de méditation, souvent c'est 45 minutes, puis après il y a un échange. Et les gens parlent. Et là, ils faisaient que, ils échangeaient, c'était pas le cas de tout le monde, mais l'enseignant demandait si vous pouvez échanger en anglais, comme ça Pascal il comprend, il peut être parti du truc, parce qu'en hébreu, moi je connais pas du tout. Et, mais ils l'ont fait, ouais, en majorité, c'était bien. Et ça, c'est pendant 4 jours. Le 7 octobre était présent, hein, même quelqu'un en hébreu, une femme en hébreu, je me rappelle très bien, je comprenais quand elle disait 7 octobre, c'était dans son ressenti de ce qu'elle parlait ce matin-là, etc. En Palestine, je veux dire, il est... C'est ce que... Moi, j'habite dans une pièce commune de la maison chez les gens chez qui j'habite. Donc, c'est la pièce où il y a la télé. La télé, elle était 24... Pas 24 heures sur 24, parce qu'il y a un moment, quand ils allaient se coucher, moi, après, j'avais pas la télé. Mais enfin, bon, je suis pas habitué à la télé. Mais je veux dire, la télé était là 24 heures sur 24. Et 20, ouais, non, pas 24 heures, 24, mais toute la journée et une partie de la nuit, c'était Gaza, point barre. Hein. C'était que sur Gaza. Et ce n'est pas les chaînes occidentales. Hein. Même pas Al Jazeera. Al Jazeera, ça passe encore, mais ce n'est pas Al Jazeera, normalement.
Pascal, cet ouvrage, donc, Retour Israël-Palestine 2024, comment se le procurer?
Les gens qui veulent... acheter le truc, c'est pas compliqué, ils n'ont qu'à faire un virement. J'ai marqué le prix, hein, mettons, ça m'est revenu à 4 euros, je le vends 14, c'est-à-dire qu'il y a 10 euros pour moi qui m'aident à faire le voyage, quoi. Hein. Parce que moi, je touche pas grand-chose avec la retraite, elle n'a pas augmenté comme le coût du voyage, il a augmenté.
Donc, si je comprends bien, pour avoir ce livre, il faut écrire à une adresse mail.
Voilà.
Laquelle ? Eh bien, Pascal Wick, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps pour parler donc de votre expérience, de vos visites, vos émotions sur ce Retour Israël-Palestine 2024 aux éditions bookedition.com. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Moi de même, et je souhaite une bonne après-midi à tous ceux qui nous écoutent.
Au revoir.
Ciao, ciao.